Nous inaugurons à présent donc, au bar de Madame Spock la première rencontre de cet après-midi, peut-être même de ces Utopiales 2014, avec Jean Petitgros, donc premier auteur, éditeur, critique, écrivain québécois que nous recevons donc cet après-midi. Alors une petite présentation rapide avant de passer aux questions. Jean Petitgros est né en 1955 à Saint-Pacôme dans le comté de Kamouraska. Jean, je prononce bien, oui. Voilà. Depuis 1981, cet éditeur, écrivain, critique québécois aux multiples talents, a publié quelques 50 nouvelles, novellas, novelettes, SF, fantastiques ou horrifiques, et une demi-douzaine de pièces de théâtre interactifs aux titres significatifs comme La taupe du ministère, 1991, ou encore Qui vaut la peau de Saint-Elbecq, toujours en 1991. Spécialiste des genres littéraires, critique, Nuit blanche, Imagine, L'année de la science-fiction et du fantastique québécois, Solaris, Alibi, etc. C'est un collectionneur inlassable et on le connaît surtout depuis 1996 comme directeur littéraire et éditeur des éditions À lire, mais aussi des revues Solaris et Alibi, respectivement depuis 2000 et 2001. Alors Jean Petitgros, première question, racontez-nous comment vous êtes entré dans la science-fiction et dans la littérature puisque vous écrivez depuis les années 80.
Écoutez, je pense que je suis né dans la science-fiction. J'ai commencé à en lire, quand j'ai commencé à lire, à 3-4 ans, j'ai commencé très tôt. Et j'ai commencé avec ce que j'appelais à l'époque des histoires qui ne se pouvaient pas. Et j'ai appris par après que c'était de la science-fiction, du fantastique, ce genre de choses-là. Et l'un des premiers livres de science-fiction que j'ai lu s'appelle « La Bible ». Qui, évidemment, j'ai appris par après que ce n'était pas nécessairement de la science-fiction, mais il y a beaucoup de choses qui ne se peuvent pas là-dedans aussi. Et tout ça pour dire que c'est, pour moi, c'est comme naturel, cette littérature, et j'ai persévéré tout ce temps-là, depuis donc plus de 50 ans.
Alors, la littérature, vous m'avez dit qu'il ne se pouvait pas.
Qui ne se peut pas.
D'accord.
Non, c'est vraiment le sens naïf, et je l'emploie encore comme je l'entendais quand j'étais jeune. D'ailleurs, si vous parlez des jeunes qui ont 7, 8, 9 ans, ceux qui regardent des films de science-fiction, ben, c'est des choses qu'ils savent très bien qui ne peuvent arriver dans votre vraie vie. Les vaisseaux spatiaux, vous n'en aurez pas passé. Ça ne se peut pas actuellement. Mais pour un jeune qui a tout le futur, il espère qu'un jour, peut-être, il y aura des choses qui vont arriver. Comme moi, quand j'étais jeune, je voyais des choses je lisais des choses dans les romans. Et maintenant, je les vois. Je les porte. J'ai un iPhone. Un iPhone en 1960, c'est de la pure science-fiction. Mais quand tu es jeune, tu as la possibilité d'aller vers le futur. Ce qu'on a moins quand on est plus vieux. Le futur est un peu limité. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne se peuvent pas pour un jeune qui devienne un genre en soi, qu'on appelle traditionnellement science-fiction, et aussi fantastique, qui est la partie un peu plus, je dirais, interne de l'impossibilité, de la partie humaine. Alors, c'est un peu mes définitions primaires, si vous voulez, des genres.
Oui, c'est intéressant comme définition, parce que finalement, cela recoupe la science-fiction, mais aussi, oui. Aussi le fantastique,
oui,
bien
oui,
sûr.
Tout à fait. Moi, si on reprend l'algèbre de Boole avec les fameux ronds, les ensembles, vous avez la littérature réaliste, qui est pour 99% de la littérature existante. Si vous additionnez ce qu'on appelle une partie de basculement où il y a quelque chose qui ne se peut pas qui va arriver, voir un fantôme, voir une créature horrifique, quoi que ce soit, vous élargissez votre cercle. Et vous avez la littérature fantastique. Et si vous élargissez encore votre cercle, vous avez non seulement les choses qui ne se peuvent pas donc à la fantastique, mais vous avez aussi les possibilités du futur, les possibilités du passé différent, les univers parallèles, les uchronies et tout ce que vous voulez. Et donc, vous avez le grand champ de la science-fiction. Ce qui fait qu'en corollaire, c'est que la science-fiction est la seule littérature existante, dont une des parties de la littérature réaliste.
Non, mais écoutez, merci pour cette définition. Ce mois-ci, j'ai trouvé deux écrivains qui m'ont donné une belle définition de la science-fiction. François Coupry, qui est un écrivain français, qui m'a parlé de littérature colorée. Mais vous, je pense que la littérature qui ne se peut pas, ça, je vais le garder en mémoire parce que c'est une très jolie expression.
Il y a tellement de définitions de la science-fiction.
Oui, mais je trouve que celle-ci est vraiment une définition intéressante. Alors, deuxième question, quelle importance eut la science-fiction, donc française ou américaine, dans votre jeunesse? C'est-à-dire, pourquoi ce goût finalement d'aller vers la science-fiction?
J'ai vraiment commencé avec de la science-fiction française, ce qui est rarissime au Québec, parce que la science-fiction française ne se rendait pas nécessairement facilement. Mais par contre, c'est ça, dans ma prime jeunesse, j'ai beaucoup lu de Fleuve Noir, parce que Fleuve Noir rentrait au Québec, et j'ai commencé vraiment des auteurs, je me rappelle justement à 6, 7, 8 ans, de lire Maurice Lima, de lire Peter Randa, de lire Richard Bessières et tous ces auteurs-là qui étaient dans la collection Anticipation, qui est une collection dite commerciale de l'époque, qui était à la fois adulte mais s'adressait principalement à la jeunesse, même si on était officiellement adulte comme littérature. C'était du roman bière, comme on l'appelle péjorativement, mais en même temps, il y avait des choses absolument extraordinaires, comme il y avait des Stéphane Wool qui surnageaient. Et donc, j'ai commencé vraiment la lecture importante de la science-fiction avec ça. Et ça m'a toujours laissé le goût que la science-fiction pouvait être et était francophone. Et par après, j'ai découvert évidemment les auteurs américains de chez nous. À la fois canadien, parce que je pense à Alfred Van Vogt, mais Alfred Van Vogt, c'est un gars qui est né à Winnipeg, donc au Canada, et qui a écrit ses principaux livres, les grands livres, Le Monde des Slans, La Fonte de l'Espace et tout ça, alors qu'il était fonctionnaire pendant le temps de la guerre à Ottawa, qui est à 3 heures de chez moi. Mais là, on la reçoit en traduction, parce que ça reste qu'au Québec, nous sommes francophones. Et oui, nous comprenons l'anglais, mais principalement, nous sommes francophones. Et même si on est très loin de la France, on est en même temps français. Même si c'est deux mondes complètement différents, on s'entend. La découverte de la science-fiction américaine m'a amené à mieux m'identifier à la littérature de science-fiction. Je retrouvais certaines racines, entre guillemets, même si c'était à travers certains... C'est Boris Vian qui a traduit la Fonte de l'Espace. C'est beaucoup meilleur en français. Il y a vraiment une différence importante. C'est pas que les livres en anglais n'est pas bon, c'est juste qu'il y a quand même la verve, il y a l'intelligence, de l'esprit, la façon d'écrire de Boris Vian qui a quand même passé. C'est comme Beau avec Baudelaire. Lisez Beau en anglais, lisez Beau en français, c'est clair qu'on le prend en français. Parce que Baudelaire a mis une poésie, a mis quelque chose de plus. C'est malheureusement pas toujours le cas avec la traduction qui rabaisse un peu trop souvent les choses. Mais tout ça pour dire que c'est de cette façon-là que je suis tombé littéralement dans la science-fiction. Mais contrairement à peu près tout le monde, moi, la partie francophone était plus importante. Et quand vous êtes jeune, que vous lisez de la science-fiction française, ce sont les généraux français qui sont dans l'espace et qui foutent le bordel un peu partout. Quand vous lisez la traduction américaine, ce sont les Américains, les États-Unis qui sont dans l'espace et qui foutent le bordel partout ou qui nous défendent contre toutes les bestioles possibles et impossibles. Et vous, comme Québécois, comme petit Québécois, vous dites est-ce que j'ai un futur? Partout dans les futurs que je lis, il n'y a aucun Québécois. Ça veut dire, est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est disparu au 22e siècle? Est-ce qu'il y a encore des Québécois? Et quand on parle de la génération No Future, je pense que quand on est dans une population minoritaire, par exemple ici, on est au bord de la Bretagne. Bon, les Bretons dans l'espace, j'en ai pas vu souvent. Bon, alors, est-ce que les Bretons existent dans le futur? Moi, je pense que oui. Le problème de la littérature qui s'en va dans le futur, c'est qui on amène là. Mais c'est ceux-là qui conduisent le bateau. C'est les Français, c'est les Américains, c'est les Allemands, c'est les Japonais. Bon, les Japonais sont surtout, il y avait des monstres sur leur île, mais c'est tout ça. Alors, ça a façonné ma jeunesse énormément. Ça m'a fait prendre conscience de mon existence précaire, comme à la fois comme jeune garçon québécois. Mais en même temps, comme peuple, si vous voulez, qui est un peu perdu dans une mer anglophone en Amérique. Et les racines françaises, moi j'ai un nom écossais, alors les traditions écossaises, parce que c'est la partie de mon père, ça a donné ceci.
Non, mais c'est ce que vous me dites là, c'est moi j'ai toujours été frappée par vraiment la défense de la langue française qui fait, à mon avis, de façon beaucoup plus concrète et forte au Québec, pratiquement qu'en France.
Bon, on n'a pas le choix.
Et voilà, et ça c'est. Je trouve que la résistance du français au Québec, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Ouais. Mais quand on y est, enfin du côté français, ouais, bientôt, du moins, bon, oui. Mais quand on va au Québec, on se rend quand même compte que c'est un vrai combat linguistique. Voilà. Il reste à inventer le roman régionaliste de science-fiction, Jean Boutigon. Non, puisque vous parliez des Bretons dans l'espace.
Ceci dit, en aparté, c'est la seule place au monde où on parle français depuis 1400 ans, c'est à Québec. C'est pas en France, à part Paris. C'est vrai, alors notre accent, c'est l'accent de Louis XIV. C'est la langue de la royauté du 16e, du 17e. Et c'est ça l'accent québécois. Alors, ça fait pas sexy. Mais n'empêche que c'est la langue royale.
Oui, d'ailleurs, on dit le loué et non pas le roi.
Voilà, c'est ça. Mais ceci, c'est blague à part. C'est que la spécificité, parce qu'on va parler de la spécificité sûrement de la science-fiction québécoise et autres, mais ça, tout ça se rejoint. La France n'est pas qu'une région, la France, ce n'est pas la France. La France, c'est un paquet de peuples ensemble qui se réunissent autour d'une langue. Il n'y a pas de crainte de perdre la langue française encore du côté de la France, même si du côté québécois, on trouve que vous parlez beaucoup anglais, beaucoup de termes anglais. Quand on arrive à Roissy, on se bidonnait parce qu'on voyait que en français, on marquait parking et en anglais, on marquait car. Pour nous, parking, c'était moins anglais. Mais bon, alors la différence entre car park et parking, sincèrement, je ne sais pas.
L'an dernier à Québec, je me souviens avoir pris une photographie d'un pressing. Mais le pressing à Québec s'appelle teinturie, n'existe absolument plus en France.
Nous avons nos anglicismes qui sont énormes et ce ne sont pas les mêmes. Et quand vous allez en Suisse, il y a des expressions en Suisse que malheureusement on ne peut pas comprendre au Québec parce qu'on ne les entend pas assez souvent. Et en France, d'ailleurs, en France, c'est qui sait qu'aux États-Unis, c'est des collèges, alors qu'on traduit toujours qu'ils ont des lycées. Ce qui est une aberration aux États-Unis, qu'il n'y a jamais eu de lycée, il n'y en aura jamais. Mais alors, ce qui veut dire que le français moyen, et il y a des choses qu'il ne lit pas directement dans la langue d'origine, ne peut pas apprendre parce qu'on leur traduit mal la chose. Et pourtant, il y a plus que 7 millions de Français maintenant qui sont venus au Québec. D'ailleurs, on en accueille sans arrêt.
Oui.
Montréal est plein de Français, c'est très bien.
Alors, Jean Petitgros, troisième question. Comment vous définiriez-vous pour notre public écrivain, critique, éditeur, quelle activité finalement a votre préférence dans tous ces domaines littéraires?
Je suis principalement maintenant un éditeur, alors donc je suis un écrivain frustré. Je n'ai pas le temps d'écrire pour moi, donc je travaille pour les autres. Et il fallait que quelqu'un le fasse au Québec, parce qu'on n'avait pas de maison spécialisée en science-fiction, en fantastique. Bref, une vraie maison d'édition spécialisée qui ne fait que des genres, et qui même s'il y a un roman absolument exceptionnel en réalisme, ne le publiera pas. Bon, alors ça, on est les premiers maintenant au Québec à l'avoir fait en 96.
Pour le public, je rappelle, ce sont les éditions à lire.
À lire, c'est ça, les éditions à lire qui sont nées en 96. On est dans notre 19e année. Principalement, je me considère comme un écrivain. Mais à un moment donné, à l'époque, il n'y avait pas de place nécessairement au public de la science-fiction principalement. Ce qui fait que quand tu fais la maison d'édition, ben, tu deviens, bon, j'étais déjà directeur littéraire à gauche à droite dans des revues, mais tu deviens par le fait même le directeur littéraire principal. Et je me défends quand même assez bien dans ce domaine-là, ce qui fait que les auteurs ont confiance, on peut rassembler les auteurs et on leur offre le lieu pour justement atteindre le public. Et on a réussi à changer en 10 ans au Québec ce qu'on appelle le fameux paradigme, c'est-à-dire que, mais vous l'avez en France aussi, c'est-à-dire que, bon, on a quelque chose qui est un traduit d'eux, donc ça devrait, forcément c'est meilleur parce que ça vient des États-Unis ou de l'Angleterre, ce qui est totalement faux. Vous avez des auteurs extraordinaires en France et le paradigme n'a pas été changé encore en France. Nous, on a réussi à le faire au Québec. Au début, on publiait des traductions en disant, écoutez, tel auteur, je ne sais pas, je pense en parlant entre autres à Jean-Jacques Petit, on avait publié Len Dayton, qui était une pointure à l'époque en espionnage. On disait, vous avez Len Dayton, lisez Jean-Jacques Petit, parce que c'est aussi bon. Si vous n'êtes pas content, revenez nous voir l'année prochaine, à le prochain salon, et on vous remboursera. Et en 10 ans, ça a été exactement l'inverse. On peine à vendre nos traductions au Québec parce que les gens veulent avoir le produit québécois. Ils veulent avoir l'auteur québécois. Et ça, ça a été beaucoup plus difficile à faire. C'est plus facile au Québec qu'en France parce que le territoire est grand, mais la population est plus petite. Et puis, il y a justement le fait qu'on doit se battre pour survivre. Et donc, foncièrement, on prend un petit peu plus pour nous. Qu'ici en France, on se dit, bon, ben, la France est éternelle, ce qui est impossible, et puis bon, c'est ça. Alors, de ce côté-là, donc, je suis devenu l'éditeur, et maintenant, je me définis vraiment, et les gens me voient comme un éditeur avant tout.
Oui, mais vous savez, dans quelques dizaines de minutes, il y aura une rencontre avec Gérard Klein.
Oui, oui.
Et Gérard Klein me dit souvent qu'il a un petit peu cette frustration.
Ah oui.
Mais je pense que un éditeur, des éditeurs tels que vous sont aussi importants parce que sans vous, les livres n'existent pas. Et donc c'est, même si d'un point de vue d'éditeur, finalement, c'est frustrant pour la créativité, mais je pense que d'un point de vue de la passation de la littérature, ça reste quand même un rôle important.
Oui.
Jules Verne n'aurait peut-être pas pu être édité sans Hetzel. Vous voyez,
oui, mais Jules Verne rêvait de faire du théâtre, surtout.
Oui, vous voyez, donc je crois aussi non. Que ça, c'est un phénomène, quand vous avez comme ça plusieurs casquettes, il faudrait que vous ayez plusieurs vies.
Oui, ça prendrait plus de chevaux.
Voilà. Alors, quatrième question, pourriez-vous nous dire rapidement quelle est l'importance de la science-fiction québécoise dans le paysage éditorial du Québec et dans la zone, finalement, de la zone francophone du Canada?
La science-fiction est un genre, c'est le genre le plus difficile. Ça ne s'adresse pas à un public large parce que c'est une littérature d'idées. Au départ, c'est une littérature qui s'adresse à 15 à 20% maximum d'une clientèle normale de lecture. À partir de là, donc, c'est normal de dire que si on vend, je ne sais pas au Québec, si on vend 2000 exemplaires d'un livre de science-fiction, c'est un très grand succès. De toute façon, au Québec, un best-seller, c'est 5000 exemplaires. Comme en France, c'est à peu près 50 000 maintenant. Alors c'est à peu près 10 fois moins au Québec. Ceci dit, la science-fiction québécoise va atteindre un peu plus loin, si on veut, nous, justement, à cause de notre particularité. Mais en même temps, ça reste des tirages assez confidentiels, d'une certaine façon. Mais il y a une répercussion qu'on n'a pas ici en France, c'est-à-dire que nous, d'avoir, mettons, la première page de la presse du cahier culture pour Elisabeth von Arbeau, pour un livre de fantasy ou de science-fiction, c'est déjà arrivé, ce qui est impensable en France. Pourquoi? Parce que le genre n'est pas aussi catégorisé, si vous voulez, que ce qu'on a eu ici traditionnellement en France. Alors, le côté, ici, quand on parle avec Daniel Panac à l'époque, il dit, bon, ben oui, je vends beaucoup, mais je suis un auteur de polar, donc je ne suis pas considéré, etc., etc. Bon, ben, au Canada, non, on n'a pas ce problème.
Peut-être le mélange... Enfin, je pensais notamment à la science-fiction de Esther Rochon, donc on le verra dans la table ronde cet après-midi, consacrée justement à la littérature québécoise de science-fiction. C'est vrai que le genre n'est pas toujours extrêmement bien défini, un petit peu hybride quand même, avec du fantastique ou avec voire de l'horrifique sur son cycle, par exemple, de l'enfer.
Dans le cas d'Esther, c'est particulier. On lui a fait même, nous, sur nos livres, on a des pictogrammes pour science-fiction, fantasy, tout ça. On en a fait un particulier pour Esther Rochon parce que ce qu'elle fait est quasiment inclassable, effectivement. Sa série des enfers, bon, vous arrivez le premier, L'âme. D'ailleurs, ça c'est le beau rôle de l'éditeur. L'âme a été écrite pour moi. Elle avait fait une nouvelle que j'avais beaucoup appréciée dans une anthologie, dans un collectif où j'avais moi-même une nouvelle. J'avais dit à Esther, j'ai dit, franchement, cette nouvelle-là, elle est vraiment très très bien. Ça s'appelle Devenir vivante, un petit chef-d'œuvre. Et j'étais rentré chez Québec Amérique avant, là, en 92. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, Esther est arrivé en disant, tiens, j'ai écrit ça pourquoi? C'était la suite, mais dans le fond, c'était le début d'une série. Mais à l'époque, c'était un livre seul. Et c'était Les Enfers. Alors, ben voilà, le roi des enfers est rendu vieux. Et puis le jeune qui pousse tasse le père. Et le jeune a la particularité d'aimer la démocratie et d'être hermaphrodite. Bon, rien que ça. L'âme, c'est ça, c'est la révolution aux enfers. Alors, le vieux Satan est sacré dehors, c'est ce qu'on a dit. Et on révolutionne les enfers. Et bon, on va encore souffrir, mais on va faire ça avec élégance. Esther Rochon étant bouddhiste, ce n'est pas les enfers traditionnels, ce sont les enfers traditionnels bouddhistes. Alors, il y a les cercles des enfers, le premier cercle, le deuxième cercle et tout ça. Ceux qui rôtissent, on les appelle les saucisses et avant tout, quelque chose comme ça. Et Esther Rochon, et la particularité d'Esther, c'est d'écrire avec aucun suspense. C'est totalement différent de tout ce que vous avez lu. Et en même temps, c'est en vous. C'est envoûtant. Pourquoi? Parce que c'est différent. Parce que l'écriture est simple, l'écriture est limpide. Elle est considérée au Québec comme la cinquième plus belle plume féminine du Québec. Et ça a été dit par des gens qui détestent cordialement la science-fiction. Alors, il faut croire que c'est vraiment bien écrit. Alors, on les croit là-dessus. Et puis, par après, on a parti les éditions à lire. Et puis, Esther a décidé de. Ben voilà, on part. Et elle nous a fait 5 suites, entre guillemets, mais c'est simplement. Le suivi des enfers, et ça fait une série qui effectivement est inclassable, ça fait une série qui est envoûtante.
Je vais essayer, notre table ronde, dans cette rencontre avec vous, je crois que vraiment il faut dire au public français que la science-fiction québécoise, et notamment, bon évidemment on connaît bien Elisabeth von Harbour, mais c'est vrai que Esther Rochon, moi, ça a été une découverte complète, d'une écriture et d'un univers mais totalement singulier, original, je n'ai pas retrouvé d'écho intertextuel, de référence. Il peut y en avoir dans la science-fiction, hein, ce qu'on appelle l'autoréférentialité. Chez Rochon, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. C'est une véritable expérience de lecture.
Ouais. Et dans cette expérience-là, vous avez Esther Rochon était une écrivaine. Il n'aurait pas pu écrire ce qu'elle écrit si elle n'était pas du Québec. Parce que dans son autre série avec laquelle elle a commencé, on dit série, mais dans le fond, tout ça se lit indépendamment, mais son cycle de Vrenalik, qui est une espèce d'île isolée où il y a un peuple qui végète, et il y a eu une ancienne prophétie qui fait que tant que tel statut ne sera pas retrouvé, ils ne pourront pas sortir de leur archipel, ils vont sont condamnés presque à mourir comme peuple. Mais c'est le Québec. C'est le Québec qui est enclavé directement à travers une mer d'anglophones. C'est le Québec qui est pris au Canada avec la Confédération où ça devait être deux peuples égaux et ils ont fait 4 provinces, une francophone et trois anglophones, etc., etc. Mais ça n'est jamais dit. Ça n'est jamais mentionné tel quel. C'est fantasmé d'une façon totalement différente. Et ce qui est merveilleux, c'est ce que j'ai découvert à un moment donné, je pense que même l'auteur ne le savait pas, c'est que d'une part, il y a ce que j'appelle la pôle principale qui est Vrenalik parce qu'elle a commencé avec. Après ça, elle a développé le pôle des enfers qui est, disons, tout en bas. Et entre deux, avec la rivière des morts, le dernier qu'elle a écrit, qui date un petit peu, mais Esther a été malade entre-temps, ça se passe à Montréal. Et ce Montréal-là sert de lien entre les enfers et Vrenalik. Et là, vous avez une espèce de grand suivi littéraire, de grand... structure littéraire qui n'a pas d'équivalent actuellement et qui est surtout typiquement québécois, même pas québécois, qui est typiquement rochonnais. Alors c'est pour ça que, comme je disais, on a fait un sigle particulier. C'est le même sigle que de la science-fiction chez Alire, mais avec le yin et le yang à l'intérieur pour bien montrer qu'il y a quelque chose de vraiment différent chez Astrid.
Oui, la singularité. Oui. Dans la singularité québécoise. Voilà. Alors, quels sont... on va quitter un tout petit peu, peut-être, cette zone-là, mais non, finalement, pas tant que ça. Alors, quels furent les grands auteurs français, anglo-saxons, québécois qui ont eu une influence donc sur votre lecture, vos auteurs préférés de science-fiction, tout simplement?
Beaucoup. Oui. Gérard Klein, moi comme éditeur, c'est une chose, mais j'ai beaucoup aimé ses premiers romans. C'est quelque chose qui m'a marqué à l'époque dans la présence dans le rayon fantastique, c'est-à-dire. Quand on est jeune et qu'on lit ce genre de livre, Regarder des étoiles, c'est un grand livre pour l'époque, et c'est encore un grand livre, point. Moi, je suis frustré qu'il soit devenu éditeur. Bon,
mais lui aussi.
Mais dans les Français, il y a lui, il y a évidemment, ben, René Barjavel a fait des choses extraordinaires. Et je ne parle pas de Ravage, je vais parler de la nuit des temps, je vais parler de le Grand Secret, ces choses comme ça. Mais vraiment, les vrais auteurs qui m'ont marqué tout jeune, il y a Béa Bruce dans le Fleuve Noir, justement, et Stephen Wood, parce que c'était des gens qui étaient effectivement différents. Et bon, Gilles Dargé qui était à Gérard Klein, c'est venu plus tard, donc moins. Mais Béa Bruce, d'ailleurs, je n'ai jamais su comment est-ce qu'on le prononçait. Bruce, il s'appelait Bonnefoy. Et ça, c'est vrai, c'était vraiment très, très intéressant. Et un auteur que je me plais à adorer, parce que je trouve qu'il est tellement mauvais, mais qui pour moi est une référence, c'est Peter Randa, qui a écrit 80 romans dans la collection Fleuve Noir. C'est à peu près toujours le même. D'ailleurs, il y en a un qui a complètement recyclé, qui a changé simplement les noms, et qui a repassé au Fleuve Noir, ils ont vu que du feu. Mais c'est fascinant. C'est fascinant d'écrire de cette façon-là. Et de réussir, c'était le plus gros vendeur chez Fleuve Noir. Personnellement, je trouve que c'est horrible, mais c'est facile.
C'est facile.
Un vrai mauvais livre, ça replace son homme aussi, des fois.
Oui. D'ailleurs, pour le public, je signale... alors, j'ai plus l'éditeur en tête, parce que je l'ai vu passer là, chez Laurent Jeunefort. Il va y avoir une réédition donc, des grands romans de Béa Bruce. Oui. Et puis, je vous conseille d'acheter également les trois tomes chez Bragelonne. Donc réédition avec vraiment des préfaces et des postfaces très très intéressantes donc de Stephen Wood, de tous les grands romans de Stephen Wood, parce que ça, je crois que c'est vraiment un immense auteur français. Voilà. Alors, pour vous nous en avez un petit peu parlé, donc je voulais revenir sur le portrait de la maison d'édition à lire, mais bon, finalement, vous nous en avez parlé. Alors, une question un peu difficile qui sera développée dans la table ronde tout à l'heure sur la SF québécoise. D'après vous, et puis de façon très simple, hein, quelles sont les singularités de la SF québécoise contemporaine par rapport à la science-fiction française, par exemple? Enfin, si vous pouvez répondre à cette question, parce que c'est une question...
Oui, c'est la question classique, et c'est comme la définition de la science-fiction, il y en a plusieurs. Généralement, et probablement que ce soir, Elisabeth va dire la même chose, il y a un rapport différent par rapport à l'espace. Au Canada, on a de grands espaces. En France, on est plus limité. C'est pas péjoratif. Ce qui fait, nous, on a un vrai hiver, ce que vous n'avez pas. Nous, les conditions climatiques peuvent être carrément dangereuses. Ici, bon, quand on entend qu'il fait moins 10, qu'ils font le plan, je ne sais pas trop quoi, à Paris, on est mort de rire. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et c'est tout à fait normal. Quand on arrive dans la science-fiction, qu'on se projette, si on se projette sur une autre planète, la spécificité à l'espace n'est pas exactement pareille. Par contre, la spécificité du fait qu'on est un peuple minoritaire, qui a, d'une certaine façon, qui n'a même pas de pays, à partir de là, c'est différent. Là, vraiment, on a une façon d'appréhender le futur et une façon de se... je vais le dire tout bêtement, il n'y a pas de science-fiction guerrière du côté québécois. Ça ne nous... On ne peut pas l'imaginer, même si on est les seuls qui avons battu les Américains en 1812.
Vous voulez dire donc une absence de science-fiction militaire?
Oui, il n'y a pas de science-fiction militaire parce que non seulement on n'est pas un vrai pays, on est une province à travers une mer d'anglophone. On est... on n'a pas d'empire. La France a eu son empire, les États-Unis actuellement sont impérialistes à tout point, et vous le voyez spécifiquement dans la science-fiction. Quand on lit Scott Card, quand on lit, plusieurs des auteurs américains, vous comprenez que ce sont des gens qui partent. De toute façon, vous le savez, s'il y a un extraterrestre qui tombe, il va tomber pas loin de Washington, il ne peut pas tomber au Canada parce qu'il n'y a rien. Bon, hier, Astier donnait son spectacle. Et puis, bon, il faisait des gags assez intéressants sur qui est quoi, puis il a terminé par dire, puis au nord des États-Unis, pour les États-Unis, bon, évidemment, au nord, il y a des ours, des orignons et puis des ivrognes. Bon, alors voilà, c'est, le Canada, c'est dit. Alors, je veux bien les ivrognes du côté canadien, mais bon. Tout ça pour dire que la spécificité comme telle, pour nous, c'est l'espace, c'est la façon minoritaire, je dirais, la façon pacifique d'explorer le futur, la façon pacifique, la façon misérabiliste aussi d'appréhender notre présent, notre distanciation quand on fait de l'altérité, quand on fait de l'uchronie, c'est jamais très, très jojo. Les lendemains qui chantent sont assez rares au Québec. Ça va être plus dans la dystopie que dans l'utopie. C'est peut-être ce qui nous différencie beaucoup, quoi qu'en France, disons que la dystopie est assez à la mode.
Ah oui, la science-fiction française est quand même une science-fiction très, très pessimiste. Hein? Oui, ça, c'est...
Oui. Et moi, bien, évidemment, j'ai connu l'époque de la science-fiction militante française des années 70, avec les Curie, Kesselring et compagnie. Alors, c'était très... Mais encore là, il y avait un côté combatif, il y avait un côté de vous avez un pays, la France est un pays conquérant, c'est vous vous battez, comme on dit, pour avoir quelque chose. Alors, ça, c'est impensable au Québec. En tout cas, jusqu'à maintenant.
Donc, si je reprends ce que vous nous dites, deux grandes, finalement, perspectives ou deux grandes singularités de la science-fiction québécoise par rapport à la française, c'est donc cette appréhension donc, de l'espace, hein, des grands espaces. Je crois qu'Elisabeth Vaunarbon, dans un de ses articles, parlait aussi de la prégnance du Nord, hein, du Grand Nord, oui, du froid. Ça, oui. D'ailleurs, chez Esther Rochon, il y a un enfer du froid. Et ça c'est un petit peu paradoxal par rapport à l'imaginaire infernal que nous avons évidemment
dans
en Europe.
Le bouddhisme, c'est ça dans le bouddhisme, au Tibet, il ne faut pas trop chaud.
Voilà, oui aussi, c'est vrai, vous avez raison. Mais je pense que c'est une donnée importante. Et puis l'autre donnée, c'est évidemment cette absence donc de science-fiction militaire ou militariste.
Oui. Et la grande différence au niveau de l'écriture, c'est que nous n'écrivons pas, excepté Elisabeth Vaunarbon, qui est française d'origine, mais en général, nous n'écrivons pas à l'européenne. Nous écrivons à l'américaine.
Ah oui, ça, c'est important.
Ah, ça, c'est totalement différent. Le problème majeur, bon, outre le fait que les auteurs français sont pas assez connus, enfin, les éditeurs ne font pas le travail pour faire connaître les auteurs français au Québec, de science-fiction et de genre en général, c'est la façon dont on écrit. La façon dont on écrit, on est beaucoup plus intellectuel en science-fiction française que du côté québécois. Vous lisez les Américains, les États-Unis. Pour nous, ce sont les États-Unis parce que nous sommes aussi Américains. C'est un pays qui n'a pas de nom en passant, c'est quand même assez rigolo. C'est le pays qui mène à peu près le monde et ils n'ont pas encore trouvé un nom pour le nom. À partir. Tout ça pour dire que ces gens-là sont. C'est l'action qui prime. C'est. Dans le fond, c'est encore là une mentalité guerrière. On tire et après, bon, ben, on verra. Alors que du côté de la France, c'est qu'on réfléchit beaucoup, on discute beaucoup. C'est ça. Alors, il y a une différence fondamentale au niveau de l'écriture. Pour le reste, ce sont les mêmes thèmes.
Oui, mais c'est déjà intéressant ce que
vous
dites.
Oui, c'est différent.
Oui, ça c'est vraiment. On y reviendra dans cette table ronde, mais je pense que ça c'est vraiment intéressant. Alors, avant de passer justement un tout petit peu sur l'histoire de la SF québécoise, moi j'avais une question à vous poser, qui est une question un peu plus personnelle. Vous avez parlé donc des années, que vous avez bien connu de la science-fiction des années 70. Moi je suis une spécialiste de l'œuvre de Michel Jury, et donc je voulais savoir si. Il vous est arrivé, qu'est-ce que vous pensez de son œuvre? Est-ce que ça. Qu'est-ce que. Voilà, quand vous l'avez découverte, est-ce que ça vous a apporté quelque chose?
Ben oui, je n'ai pas mentionné tantôt Michel Jury, mais c'est un auteur qui a développé quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque en France. Est-ce que ça vient de l'arrivée de Philippe Codic ou quoi que ce soit? Je ne pense pas parce que, bon. Il a quand même écrit beaucoup de choses avant, mais il y a eu le changement, dont Higon versus Jury, et puis, son premier, c'est Le temps incertain. C'est quand même une lecture qui frappe le jeune lecteur et le moins jeune lecteur, je pense, à l'époque, c'était totalement différent. C'était quelque chose qui dérompt, justement, la tradition française. Et ça a été important. Au Québec, aucune répercussion. Aucune répercussion, malheureusement. Mais au Québec, qui connaît Michel Jury? Qui l'a travaillé? Qui l'a amené? Personne.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une question aussi d'amener un auteur ou d'amener des œuvres, évidemment, sur un territoire.
Il y a un auteur français qui est bien connu maintenant au Québec, et c'est Napoléon. J'adore ce que faisait à l'époque Serge Rousselot. Et Serge Rousselot, à l'époque, bon, je suis collectionneur, j'essayais de trouver ses livres, il les faisait rentrer 50 exemplaires, je ne réussissais jamais, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était compliqué. Puis, quand je suis rentré comme éditeur, je disais au distributeur, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'à l'époque, c'était une façon différente de travailler, mais pourquoi vous n'en prenez pas plus et tout ça? Et puis, bon, finalement, j'ai dû être convaincant parce qu'un certain titre, ils en ont pris 300 au lieu de 50. Et puis après ça, ils ont passé à 500. Puis après ça, ben, quand tu en rentres un certain nombre, tu te dis, ben, il faut mettre de l'argent là-dessus parce que ça vend trop. Alors, quand un auteur vend, il met de l'argent pour faire de la promotion, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que Brousselot, maintenant, est quelqu'un qui est bien connu au Québec et qui vend relativement bien. Qui fait tellement de choses aussi. Mais les autres auteurs français, bon, même Pierre Bordage, qui est quand même une pointure. Pierre, bon, au Québec, je pense qu'il peut être incognito sans aucun problème.
Oui, donc il y a vraiment un travail d'échange, je dirais, dans le paysage éditorial à faire d'un côté et de l'autre pour que finalement, en France, on connaisse mieux les auteurs québécois et qu'au Québec, on publie ou on exporte les auteurs français.
Oui, mais nous, maintenant, avec la France, on a la chance maintenant d'avoir le numérique, ce qui fait qu'on n'a pas la barrière, l'interface du libraire qui est là, malheureusement, trop souvent. Et je le dis en toute amitié avec les libraires parce qu'on les aime bien. Et en même temps, hors d'hexagone.salut en France. Alors, si vous êtes belge, vous êtes suisse ou vous êtes québécois, c'est toujours un peu plus dur. Par rapport à ça, maintenant, on s'aperçoit qu'en numérique, on passe sans interférence dans le salon du futur lecteur ou lectrice. Et on vend très bien en France. À lire, vend très, très bien en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en tout bref, partout où il y a des francophones. Et ça, c'est bon, ça reste du dématérialisé. Mais comme on dit, c'est le contenu qui est important, c'est pas nécessairement le contenant. Oui, on peut aimer le papier, on adore encore le papier, on va continuer à faire du papier, mais tout pour rejoindre la clientèle. C'est comme avec la revue Solaris que je dirige aussi. On n'est plus distribué en France. Et ça donne rien, parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne voudraient pas l'acheter. C'est que c'est impensable d'un point de vue économique.
Alors que c'est une excellente revue avec vraiment des articles de fond. Et...
C'est sûr, je ne fais pas dire.
Ah oui, non, mais en tant que chercheur, j'ai beaucoup utilisé et je continue à l'utiliser.
Mais c'est malheureux pour ça, parce que c'est la plus vieille revue francophone au monde maintenant. On fait 40 ans, non-stop, comme on dit. Alors, depuis 1974, à chaque année, il y a toujours au moins 4. Là, maintenant, c'est 4 numéros par année, c'est trimestriel, mais à l'époque, c'était 6 numéros. Ça n'a jamais arrêté, contrairement à Fiction, qui a une pause de 15 ans. Et là, maintenant, Fiction, ici, on a des problèmes. Et c'est pas parce qu'on est Québécois, justement, qu'on a des problèmes en France. C'est oui aussi, ça aide pas. Mais c'est que la science-fiction, entre autres, est très difficilement répercutée en librairie. Les bons libraires de science-fiction qu'on avait dans les années 70 et 80 ne se sont pas reproduits. Enfin, je parle en métaphore.
Oui, bien sûr. Alors, une des dernières questions. Estimez-vous que la SF québécoise est une jeune SF, c'est-à-dire essentiellement développée depuis les années 60? Nous avons fait donc un colloque l'année dernière au Québec, justement à Chicoutimi, où nous faisions finalement des études comparées entre les débuts de la SF française et les débuts de la SF québécoise. Et c'est vrai que Jean-Louis Trudel nous a parlé finalement d'une anticipation, on va dire entre les années 1900 et 1950, d'une anticipation apportée au Québec et qui s'est véritablement développée depuis les années 60. Et là, donc du coup, on a 50 ans plus tard, quasiment, on a une science-fiction qui est encore jeune par rapport à, par exemple, la littérature française.
Oui, bien, vous avez une tradition de ce qu'on appelait à l'époque la fiction scientifique, avec Rosny et compagnie, l'excellent Maurice Renard, et tout ça que nous n'avons pas. Nous avons des points, nous avons des auteurs qui ont écrit un ou deux romans. Je pense à Emmanuel de Rosier avec La fin du monde, La fin de la Terre, c'est-à-dire, oui, 1931, qui est un roman...
Beaucoup d'apocalyptique, d'ailleurs, dans ces textes.
Oui.
Voilà, Sophie Bollé avait fait justement un article là-dessus.
Dans le cas de Desrosiers, c'est quand même remarquable. C'est que, bon, ça va mal et tout ça, mais au moins, là, on ne meurt pas. C'est-à-dire qu'on prend 350 millions de personnes, on les envoie sur Mars. Et Jean-Louis a trouvé qu'il y avait un inédit, semble-t-il, que la suite, c'est qu'on s'apercevait dans la suite que sur Mars, les Martiens, dans le fond, ce sont d'anciens Terriens qui ont vécu les mêmes choses qui se sont établies sur Mars. Bon, la particularité, ben, nous sommes dans le vieux Québec profond, 1930, c'est le Moyen Âge, c'est la religion chrétienne par-dessus la tête. Il n'y a aucun personnage féminin dans La fin de la Terre, alors ça s'est mal barré pour la suite. Mais bon, c'est quand même ça. Et il y a une personne dans la suite inédite, il y a un personnage féminin qui tombe malade. Ah, ça ne va pas bien.
Oui, donc c'est
mais ça, c'est quelqu'un, c'est une personne qui faisait quelque chose. La plus grande particularité, c'est que dans Emmanuel Desrosiers, 1931, le grand peintre qui est connu mondialement, Jean-Paul Lemieux, un des grands peintres canadiens et québécois, a fait ses premières illustrations, ce sont dans ce livre-là. Et c'est maintenant, comme on dit, c'est une pointure internationale, et les œuvres tournent autour d'un million à deux millions, et ces œuvres-là ont paru pour la première fois dans un roman de science-fiction. Il faut le faire. Yves Thériault, qui est un de nos grands auteurs québécois dans les années 60, a fait un recueil étrange qui s'appelle Si la bombe est à compter, qui est sorti en 62-63. Il y a des nouvelles entrecoupées avec des articles sur les radiations, sur les retombées, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire s'il y a une bombe? C'était la grande pomme nucléaire à l'époque, et c'était encore pire du côté de l'Amérique. Là. Au Québec, moi, quand j'avais 8-9 ans, plusieurs personnes autour de chez nous à Québec, des abris anti-nucléaires, c'est les gens qui osaient ça parce que ça allait arriver. Là. On était jeunes, on pratiquait quand j'étais en 3e, 4e année, il fallait se mettre en dessous du pupitre. Vous voyez le genre? Thériault fait un livre là-dessus. Il y a des nouvelles extraordinaires et typiquement québécoises, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui s'en va dans le nord, et c'est l'Indien, évidemment, qui le reçoit, il arrive en hydravion, et il y a un vent chaud qui arrive du sud. On comprend que c'est la bombe, ce n'est jamais dit, et on comprend que c'est la bombe qui vient de sauter probablement à Montréal, au Québec, quelque chose comme ça. C'est un texte extraordinaire qui a été traduit aux États-Unis nombre de fois, et bien, ça passe comme un texte États-Unis.
Ça, c'est un auteur vraiment formidable. J'ai découvert ça avec un collègue, la Patrick Gay, qui est d'ailleurs spécialiste de Jacques Spitz. On espère qu'un jour il va faire éditer sa thèse. Moi, je le pousse là-dessus parce qu'en fait, il a mis en forme le journal de travail de Jacques Spitz. Il a travaillé essentiellement là-dessus. Et ce qui, évidemment, pour nous, serait une source incommensurable, d'abord de joie, de connaissance sur ce formidable auteur, donc écrivain de la Guerre des Mouches en 1938, c'est son roman le plus connu. Et donc c'est lui qui m'a fait connaître Thériault, et vraiment c'est un auteur extraordinaire. Donc pour le public, vous voyez, on a cité déjà pas mal d'auteurs, vous voyez, Esther Auchan, Thériault, ça c'est vraiment des auteurs qui méritent d'être connus. Alors, le mot de la fin, Jean Petitroux, parce que je vois qu'on arrive, l'heure tourne. Alors, juste une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il existe une école critique québécoise de la science-fiction ou pas? Parce que vous êtes quand même un des spécialistes. Vous avez beaucoup écrit d'articles critiques dans les revues. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une critique de la SF?
Moi, en tant qu'éditeur, évidemment, je me tais comme critique maintenant parce que je suis en porte-à-faux. Question d'éthique, c'est tout à fait naturel. On a fait l'année de la science-fiction du fantastique québécois depuis 1984. On a formé une génération complète d'étudiants à l'époque qui étaient surtout principalement à l'Université Laval. On a fait, je pense, un bon travail. Il y a une bonne critique, mais qui n'est pas structurée encore. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça devrait se faire par les universités et je ne crois pas que ça se fasse actuellement. Et si ça se fait, tant mieux. Si je ne suis pas au courant, je suis comblé. mais je ne crois pas que ça se fasse actuellement. L'année de l'ASF, on continue toujours. Je vous annonce qu'actuellement, à ma chambre, le soir, je travaille au montage de l'année 94, futur best-seller. Mais non, c'est intéressant parce qu'il y a encore des nouveaux critiques qui font les commentaires, qui font les résumés, qui font le travail. À Solaris, on a une équipe qui est relativement solide, évidemment, mais encore là, pour avoir une bonne équipe critique, il faudrait avoir ce que j'appelle une régularité pour que les critiques, justement, puissent s'exprimer plus régulièrement, plus souvent, tout ça. Ça, on n'a pas le poids numérique au Québec. Et ça, c'est très difficile. Et malheureusement, justement, le fait que c'est beaucoup de traduits d'œuvres qui nous arrivent de France, et malheureusement pas assez de livres français, ben c'est la poule et l'œuf, c'est qu'à un moment donné, on connaît moins les Français, on veut moins critiquer le français, et à partir de là, la vraie critique, pour moi, doit se faire en langue originale, autant que possible, pour aller chercher vraiment la substantifique. Voilà. Et tout ça pour dire que on a, je pense, les gens pour le faire, mais est-ce qu'on est capable de développer?
Oui, c'est un petit peu comme en France, ça commence à se structurer par rapport. Ouais. Les États-Unis ont une vraie critique construite, mais depuis des années.
Oui, mais ils ont la masse
critique. Voilà. Et nous, on commence à le faire. Donc, bon, peut-être qu'il faut être optimiste sur le futur.
Ouais, j'espère.
Voilà. Alors, le mot de la fin, parce que j'aimerais qu'on laisse éventuellement, si le public a une question ou deux à poser donc à notre invité. Le mot de la fin, Jean Petitmont, vive la SF québécoise libre. Hein. Donc.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais je pense que le mot de la fin, ce serait qu'il faudrait vraiment que les lecteurs français, les lectrices françaises qui aiment la science-fiction découvrent la science-fiction québécoise et inversement. Notre lectorat français d'Amérique devrait mieux connaître et je suis obligé de dire que c'est un travail d'éditeur, c'est un travail de distributeur. Nous, on fait le travail de notre part et c'est très difficile en France parce que vous êtes encore le pays de la littérature et il y a une masse énorme de choses. De notre côté, bon, les livres rentrent très très bien, mais bon, l'effort ne se fait pas là-dessus, parce que pour un paquet de raisons. Mais vraiment, c'est ça, et je dirais là-dessus, vive le numérique, ça nous permet d'avoir des liens plus directs, plus intéressants et plus proches, même s'il n'y a plus l'objet de papier, mais au moins, les idées passent, c'est la science-fiction, c'est la littérature des idées. Profitons-en.
Merci Jean Petitmont pour ce tableau finalement non mais relativement complet qui va nous ouvrir sur cette table ronde québécoise. Donc est-ce qu'il y a dans le public éventuellement des questions à poser à notre invité ou pas? Non.
C'était très clair.
Voilà. Bon. Voilà, donc on va s'arrêter là et puis bah, écoutez, vous allez croiser Jean Petitmont de toute façon dans les couloirs des Utopiales, donc nous vous souhaitons une bonne continuation. Au revoir.
Merci.
Merci. Il y a des gens qui ont écrit.